Canonisé le 13 octobre 2019, le cardinal John Henry Newman, anglican converti au catholicisme qui a vécu au XIXe siècle, est considéré comme un des plus grands théologiens de notre temps. Le temps d'un week-end à Dax, l'antenne de théologie des pays de l'Adour a proposé de le découvrir avec le père Grégory Wouimbe, docteur en théologie et vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Il nous explique en quoi le cardinal Newman est un maître pour notre Église.
Je pense que Newman, avant tout, c'est un fidèle du Christ. C'est un chercheur du Christ. Et c'est le trait d'union de toute sa vie, de 1801 à 1890. Il a traversé tout le 19e siècle anglais. Et à travers tout son itinéraire, c'est d'abord quelqu'un qui a recherché le Christ et à vivre intimement de cette relation avec le Christ et d'en témoigner. Et c'est ce qui fait qu'il est un maître spirituel, par-delà toutes ses positions en christologie, en ecclésiologie, tout ce qu'il a pu apporter à la pensée chrétienne, et en particulier à la théologie catholique aujourd'hui, c'est véritablement qu'il a été un exemple, qu'il a été un homme à la recherche du Christ. C'est vraiment ce qui unifie et qu'il considère que le chrétien, c'est très exactement celui qui, à tout moment de son existence, est en quête du Christ, à la recherche du Christ, qui est en état d'éveil, à reconnaître le Christ en dehors, dans le monde, dans la culture, dans la nature, dans les autres, et au-dedans, surtout au-dedans, dans son propre cœur.
Il est en quête du Christ, donc de la vérité, on peut faire ce raccourci. Donc ça veut dire que nous, on est censé être en recherche de la vérité, on n'a pas la vérité qui nous tombe tout cru.
Et c'est une vérité qu'on ne possède pas, qui nous est donnée, qui est Dieu lui-même. Et Newman l'a laissé comme épitaphe, l'a fait écrire comme épitaphe sur sa tombe, des ombres et des images vers la lumière de la vérité. C'est-à-dire que pour lui, véritablement, la recherche de la vérité, cette recherche du Christ est la recherche de la vérité. Et que il a été libre parce qu'il a toujours mis en premier cette recherche de la vérité. Pour lui, c'était ce qui faisait sa joie et son bonheur. Et donc, je dirais qu'il s'est toujours situé, non pas en possesseur ou en maître de la vérité, mais en serviteur de la vérité. Et il nous apprend à nous situer par rapport à la vérité, non pas au-dessus, mais au-dessous, véritablement, comme quelque chose qui est élevé vers la vérité.
Pourquoi s'est-il converti finalement de l'anglicisme au catholicisme et en quoi le fait qu'il ait été anglican a beaucoup apporté aussi à notre Église ?
D'abord, le fait qu'il ait été anglican a beaucoup apporté à l'Église d'Angleterre elle-même, dont il a été un maître à penser et à travers le mouvement d'Oxford, il a vraiment contribué à un renouveau au sein de l'Église d'Angleterre. Mais je crois toujours en raison de la quête de vérité, c'est qu'à un moment donné, il a reconnu que cette Église apostolique, cette Église des Pères à laquelle il tenait tant, des pères de l'Église, elle se trouvait en continuité avec l'Église de Rome. Il est entré dans l'Église de Rome parce qu'il a reconnu dans l'Église de Rome celle qui continuait à porter le charisme prophétique et le charisme apostolique ensemble.
Alors c'est un théologien du 19e siècle, mais vous avez essayé de nous montrer en quoi il était actuel. Comment l'est-il ? Comment peut-il à ce point-là nous aider dans notre vie d'aujourd'hui ?
Ce qui est frappant, c'est que à la fois il est vraiment un théologien de son temps et on ne peut vraiment le comprendre, ou en tout cas il nous aide à comprendre le 19e siècle, mais il est assez atypique dans le 19e siècle en réalité. C'est une figure assez unique et atypique dans le 19e siècle européen, et d'une certaine façon, ce qui frappe, c'est sa modernité au sens qu'il répond véritablement à ce que peut être notre soif de Dieu aujourd'hui. Et je crois que la raison, c'est précisément qu'il est toujours allé au cœur de la personne, au cœur de ses besoins, au cœur de ses désirs, de ses affections, et que finalement, ce qu'il dit vaut pour tout homme de toute époque. Et donc, paradoxalement, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, nous rejoint totalement, parce que finalement, la base de tout chez lui, c'est l'expérience que l'on fait de la présence divine et l'expérience que l'on fait en général. Donc cette base vraiment existentielle et empirique rejoint finalement le lecteur, l'auditeur d'aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que l'un des grands problèmes de notre époque, c'est justement ce déni du réel, ce monde un peu virtuel, un peu déconnecté, où nous vivons à côté des autres, mais où finalement on n'est pas réellement là, réellement présent. Et je crois que, au fond, Newman est un théologien de la présence aux autres, mais aussi de la présence de Dieu dans notre monde. Donc, il répond, à mon avis, aux grands enjeux, aux grands défis de notre époque. Et je crois que tous les gens de la session, beaucoup de gens de la session m'ont dit, c'est fou comme Newman est moderne, actuel. Et donc, c'est quelque chose qui est frappant, c'est à quel point il est vraiment pour notre temps.
Un théologien de notre temps, c'est ce qui a marqué Catherine, venue de Pau.
Il disait que quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui évolue, qui change de statut, et que du coup, la doctrine, le fondement, les dogmes, tout ce qui fait notre foi, c'est quelque chose qui doit être reformulé régulièrement, parce que ça, justement, il faut que ce soit vivant et parlant aux gens de l'époque qui sont. Et du coup, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'on a l'impression de dire... ça a été dit comme ça, il faut garder les mots. Et en fait, Newman dit exactement le contraire. Il dit non, il faut que chacun se le reformule. Il faut que ça soit redit avec des nouveaux mots et de nouvelles manières. Et ça, ça prouve que c'est vivant.
En quoi est-ce que du coup ça nous aide pour notre vie d'aujourd'hui ?
En fait, c'est paradoxal parce qu'on a l'impression qu'il faut pas que ça bouge. Mais en fait, pour montrer que c'est vivant, il faut que ça bouge. Et ça nous aide en disant que Newman, qui est donc il y a plus de 100 ans, est terriblement d'actualité quand il dit qu'on est dans un monde qui bouge tout le temps. Lui, il a bougé énormément en cherchant sa voie, dans quelle foi, finalement. Et ça, c'est très moderne, hein. Le fait que ce soit très mobile.
Autre chose qui vous a marqué ?
Le respect de la foi de chacune des personnes. En se convertissant au christianisme, il n'a pas refusé les anglicans. Il a refusé la foi anglicane, mais il a toujours gardé ses amis. Et cette amitié a été fidèle, et le respect de leur foi à eux. Et ça, c'est beau, parce qu'on est dans un vrai œcuménisme qui n'est pas dans le rejet de l'autre.
Gwenola et Benjamin, jeunes couples venus de Pau, ont été marqués par la personnalité du cardinal Newman.
Il fait des punchlines, et des punchlines qui restent. Par exemple, quand il dit « Dieu ne cesse pas de nous appeler. Il nous a appelés au moment de notre baptême. » Et en fait, même si on répond pas aux appels, en fait, il continue d'appeler. Moi, c'est quelque chose qui me fait repenser à ma vie, qui me fait... voilà, c'est des choses que j'aurais envie de transmettre, par exemple, à mes filles. Moi, c'est ça qui m'a frappée, la modernité de ses propos, le fait qu'il ait beaucoup de phrases choc. Voilà, une certaine forme d'humour aussi chez Newman.
Alors, moi, il y a deux points, après y avoir un peu réfléchi, là, qui m'ont marqué. Part toujours de son expérience de vie, du réel, pour ensuite développer sur des concepts plus théologiques. Et donc c'est incarné. Et c'est incarné, d'après ce que le Père disait, c'est incarné à travers la tête et le cœur. Et il disait que François, aujourd'hui, prolonge cette réflexion en parlant de la tête, du cœur et de la main, en passant à l'action. Et l'autre, il y a eu un très beau point aussi ce matin, quand il parlait de la liturgie, il parle de l'importance de la liturgie, de l'année liturgique, donc de vivre... les mystères du Christ au sein de l'année, donc l'Avent, la naissance, toute l'arrivée vers Pâques, la résurrection, la Pentecôte. Et en fait, il décrivait ça non comme chaque année le même cercle qui se referme, mais comme un cercle ouvert, donc une spirale qui monte. Et donc en fait, en participant à la liturgie, constamment, on progresse dans notre vie chrétienne, donc à chaque... Voilà, chaque messe, on progresse. Chaque messe n'est pas inutile et c'est une progression, même si on n'en a pas l'air, même si on n'en a pas l'impression.
Alors, Michel, vous venez de Pau, vous êtes venu à cette session de la TPA. Est-ce que vous connaissiez le cardinal Newman ou vous l'avez découvert ?
Je l'ai en partie découvert. J'en avais entendu parler et il m'intriguait. Et comme je savais qu'il était un homme moderne et très pratique, je me suis enrichi de son enseignement. Et j'ai envie de dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire par sa simplicité, par sa modernité. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que sa vie de sainteté, puisqu'il est canonisé, sa vie de prêtre et d'homme d'action, comme nous laïcs, c'est épétri de sa vie de tous les jours, de son quotidien, la présence de Dieu dans notre quotidien. Et ça, j'ai trouvé ça très très fort, se dire que notre vie chrétienne au quotidien est un engagement permanent de présence de Dieu, d'une vie sacramentelle au service des autres. C'est ce qu'a su mettre en valeur de le cardinal Newman d'une façon très concrète, pratique et à la fois extrêmement profonde. Il a essayé, à travers ses commentaires, d'élever le niveau par rapport à toutes les critiques qu'il a eues pour donner une dimension spirituelle magnifique dans ça et dont il a été témoin dans sa vie.
En même temps, c'est un grand théologien. Alors, Absolument. Est-ce que ça peut pas paraître inaccessible pour nous?
Alors, d'une certaine façon, grand théologien, bien sûr, c'est un peu une grosse tête, en plaisantant, gros caillou, mais c'est tout à fait inaccessible, parce que je pense que la théologie est accessible à nous, et qu'elle nous parle aussi. Alors, bon, peut-être pas comme un Teilhard de Chardin ou des gens qui ont une théologie un peu plus pointue, mais elle s'adresse aussi aux hommes et aux femmes du quotidien. Et c'est la richesse de Cardinal Newman, qui parfois il a des passages assez pointus et costauds, mais ça baigne dans le quotidien. C'est ça qui est sa richesse.
Voilà quelques témoignages sur le cardinal John Henry Newman, découvert lors d'une session proposée par l'antenne de théologie des Pays de l'Adour.